Bonjour le Book Club.
Ce qui m'a frappé dans Du même bois, c'est surtout le lien de la transmission, le lien également du souvenir.
C'est un tableau vivant, on y voit aussi le mouvement des corps, les odeurs de cette ferme.
J'ai pu aussi revoir mes grands-parents.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Écrire pour remettre des bêtes dans l'étable, écrire pour faire sortir les bêtes de la tête, écrire pour hériter d'une ferme autrement qu'en devenant paysanne. Au programme de votre book club aujourd'hui, un livre qui habite une bâtisse où l'on naît, puis on vit, puis on aime, puis on meurt. Marion Fayolle signe le très beau roman Du même bois et elle est notre invitée. Vers 15h50, comme chaque mardi, nous retrouvons Lou Quevauvillier au carrefour des enjeux littéraires et numériques. Aujourd'hui, elle nous parle de la numérisation du manuscrit du premier roman de Virginia Woolf, qui était à destination de son éditeur américain qui avait été perdu pendant 21 ans. Et à la fin de l'émission, on se quitte en chanson parce que vous en trouvez dans les livres et que vous partagez vos trouvailles via le compte Insta du Book Club ou le mail. C'est très sympa. Merci beaucoup. Vous avez le Book Club, vous avez le programme. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous. J'ai dit qu'il y avait des petits mots dans le désordre, mais que l'essentiel était là, Marion Fayolle. Bonjour.
Bonjour.
Du même bois, c'est le titre de votre livre paru en cette rentrée littéraire janvier 2024 aux éditions Gallimard. Peut-être nos auditeurs et auditrices connaissent le reste de votre travail de dessin qui est largement publié chez Magnani. On pense à des livres comme Les Petits, comme Les Amours Suspendus, comme Fond Perdu, comme La Maison Nue. Il y en a une grosse dizaine dans mes souvenirs. Mais vous êtes ici pour ce texte littéraire. Ici, dans le Book Club, tout commence par un questionnaire de lecture. On fait d'abord le portrait de nos invités en tant que ce sont des êtres qui ont rencontré des livres, on espère, ou peut-être ou pas, sur leur parcours. Est-ce que vous vous souvenez où, quand, dans quel paysage et avec qui vous avez appris à lire, Marion Fayolle ?
Je pense que j'ai appris à lire de manière très basique à l'école, comme tout le monde. Après, j'ai le sentiment d'avoir appris à lire les images avant de savoir déchiffrer les mots. Et j'ai des souvenirs de petite fille où j'installais mes poupées en arc de cercle, comme à l'école, je pense. Et je leur lisais des histoires alors que je savais pas lire. Mais donc ça passait par une description des images, par aussi la possibilité avec un même livre d'inventer plusieurs histoires en fonction du moment, en fonction d'un détail que j'avais vu ou pas. Donc je situerais peut-être l'entrée dans la lecture là, même s'il ne s'agit pas encore
donc
de
quelque
savoir.
Chose d'en fait assez tôt et avant même la lettre. Plutôt oui. Du côté des images, et tout de suite à vous entendre, c'est intéressant parce que c'est tout de suite la polysémie des images, c'est oui. Une image et plusieurs histoires.
Oui, je pense que j'aimais bien avoir des livres et que justement il n'y ait pas quelque chose. Le texte, quand il est arrivé après, me semblait un peu totalitaire et j'aimais bien cette idée que le lecteur était aussi acteur, pouvait être créatif et que c'était pas l'auteur qui dictait ce qu'un livre racontait, c'était aussi ça l'acte de lire, c'était de pouvoir venir projeter des choses, pouvoir se raconter à partir d'un même objet, plein de possibles.
C'était des livres d'images qui étaient chez vous, que vous empruntiez à la bibliothèque ?
Je pense que j'en empruntais à la bibliothèque et puis que j'étais aussi abonnée à l'école des loisirs. Enfin, je me rappelle comme ça de recevoir des livres.
C'est un objet qui vous était familier en tout cas ?
Il y avait pas énormément de livres à la maison, mais ma maman était quand même prof de français, donc il y avait une bibliothèque et on avait cet abonnement comme ça avec des livres qui arrivaient et je pense que j'allais à la bibliothèque avec l'école aussi emprunter des livres toutes les semaines.
Est-ce que vous vous souvenez, Marion Fayolle, le jour où le texte a fait vraiment son entrée dans votre rapport au livre et à cette aventure-là?
Je pense qu'à l'école, je me rappelle quand même un petit peu de certains moments au CP où apprendre à lire, il y avait un peu une forme quand même d'anxiété. Il n'y avait pas une avidité de se dire j'ai vraiment envie de pouvoir déchiffrer les mots. C'était le côté très scolaire, le fait que tout d'un coup l'école n'était plus un espace de jeu, mais il fallait en fait réussir à déchiffrer. Je me souviens d'un sentiment un peu stressant. Et je pense que le plaisir de la lecture, il est arrivé plus tard. Au lycée, en fait, moi, J'avais un profil assez complet. En fait, j'aimais bien même les mathématiques. Je me disais pas que j'étais littéraire. Je savais pas trop. Et en fait, je suis partie dans un lycée pour faire de l'art plastique en option lourde. Donc, c'était un lycée où j'étais à l'internat et où j'avais 5 heures d'art plastique par semaine. Et en fait, ce bac-là n'était combiné qu'avec une option littéraire. Donc, si je faisais pas un bac littéraire, on me renvoyait dans mon lycée de secteur.
C'était fini le dessin, quoi.
Je quittais l'internat et je retournais dans un lycée au fin fond de l'Ardèche. Donc, en fait, j'ai fait un bac littéraire d'abord un peu...
Pour rester à l'internat.
Pour rester à l'internat, parce que c'était lié de manière sans doute plus logique aux arts plastiques. Et c'est là qu'après, j'ai commencé à me rendre compte qu'il pouvait y avoir un autre rapport à la lecture que la chose très scolaire qui jusqu'à présent me tenait un peu à distance, je pense.
Avec quel texte, par exemple ?
Je pense que c'est un moment où j'ai commencé à découvrir, par exemple, les textes de Romain Gary, que j'ai beaucoup aimé, où j'ai senti J'ai vraiment senti un plaisir. J'ai senti qu'il se passait quelque chose et que j'avais. Et d'ailleurs, souvent, j'ai eu besoin d'y revenir comme un.
Vous pensez à des romans en particulier de Romain Gary ?
Alors, je pense La vie devant soi, mais j'avais beaucoup aimé Claire de femme que j'avais lu après et que j'aime bien relire même encore de temps en temps, aller piocher des passages. J'ai l'impression que c'est un livre un peu refuge, quoi. Je m'y sens bien, même si c'est un livre assez triste, mais je trouve que les mots me font quelque chose, en tout cas. Et après, il y avait, quand j'étais du coup en train de préparer mon bac, on avait beaucoup travaillé sur les métamorphoses d'Ovide, donc il y avait aussi cette idée-là, comme ça, un peu d'avoir un rapport moins ancré dans le réel, un peu de fable, qui m'intéressait et que je trouvais assez...
Et puis presque de la vision.
Oui, voilà.
Ensuite, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans votre travail, l'idée de la transformation, de la métamorphose, des corps qui sont capables d'accueillir beaucoup d'étrangeté en eux. Donc
ça m'intéressait moins que Romain Gary dans les mots. Mais par contre, dans ce que ça racontait, ça évoquait des images, ça générait, je sentais que ça déplaçait des choses en moi et qu'il y avait quelque chose à ce moment-là qui s'ouvrait.
En parlant d'ouverture et de déplacer des choses en vous, Marion Fayolle, la question du surgissement de la maternité, que ce soit pour vous ou en général, est un événement qui est souvent traité. Là, ici, dans le texte, on va y venir dans Du même bois, mais évidemment dans vos autres livres, des livres de dessin. Est-ce que c'est un moment, que ce soit la grossesse ou après la naissance, où vous avez eu encore de la place pour le lire ?
Beaucoup moins. En fait, moi, j'ai jamais lu de façon régulière. Je suis pas du tout une lectrice. J'ai pas toujours un livre. C'est plutôt des phases de boulimie. Donc, il y a des moments où j'ai besoin de lire et où je vais ingurgiter les livres. Et d'ailleurs, je suis pas une bonne lectrice dans le sens où si je me laisse pas tout de suite embarquer, j'abandonne les livres. En fait, j'ai besoin que ce soit une sorte de rencontre.
Il y a deux écoles, hein. Franchement, ne faites pas de vous une mauvaise lectrice.
Non, mais voilà, j'ai besoin que ce soit comme en amitié, quoi. Pour moi, un livre...
Ça accroche ou ça accroche pas.
Ça accroche ou ça accroche pas. Et si ça accroche pas, je fais pas l'effort parce que justement, j'ai l'impression que la lecture, c'est tellement un temps qui est dur à trouver que je veux pas, en fait, le perdre dans quelque chose qui serait douloureux ou auquel je prendrais pas de plaisir. Après, le fait d'avoir un enfant, quelque part, c'est ce qui a généré l'envie de faire d'écrire de manière beaucoup plus pragmatique. Mais j'ai commencé à écrire avant Du même bois un petit recueil de poésie qui s'appelle Postillon. Et en fait, ces textes-là, je les ai écrits dans le noir pendant que j'endormais mon fils. Parce que...
Comment, matériellement, sur un téléphone portable ?
Sur mon téléphone portable, parce que justement, j'avais un petit garçon qui avait besoin que je reste énormément dans sa chambre le soir, et que je trouvais ça dommage, en fait, de pas profiter de ce temps-là, de pas le prendre comme un petit temps que mon fils m'offrait, plutôt qu'à un moment volé. Donc, je me suis mis un traitement de texte, mais plus en me disant, je vais écrire des choses pour pouvoir les dessiner, parce que dans le noir, je peux pas dessiner. Et en ayant recours aux mots, après finalement dans mon bureau, j'arrivais pas à le convertir en image.
C'est pas mal finalement les mots.
Voilà, je me disais finalement ça marchait mieux avec des mots. Comme je suis passée par le mot, je peux plus le retirer. Et finalement, c'est
le temps contraint qui est imposé par l'enfant qui vous a fait à trouver un autre endroit du langage.
Oui, en tout cas, qui m'a obligée à explorer cette piste-là que j'aurais peut-être pas osé, en fait, aborder si j'avais été en pleine lumière dans mon bureau où j'avais du coup ma méthodologie de travail, mes rituels. Là, en fait, tout d'un coup, il y avait plus de temps, il y avait tout qui était chamboulé, il fallait réinventer des logiques et des temps à soi. Et c'est cette réinvention-là aussi qui m'a fait un peu dévier.
Puisqu'on parle de transmission beaucoup, on peut terminer ce questionnaire de lecture, Marion Fayolle, en vous demandant si vous lisez vous-même à d'autres, aux plus petits, aux plus âgés. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez volontiers?
Oui, je lis des histoires à mon fils, ça c'est sûr. Après, pendant la période des confinements aussi, ça a été une période de... On avait un ami qui vivait à la maison pendant un certain temps. Et ça a été une période où on lisait à voix haute le soir. On avait ritualisé ça et c'est aussi quelque chose que j'ai découvert, parce que pour moi la lecture c'était un acte solitaire. Et là, tout d'un coup, le soir, on était trois et on attendait ce moment où on allait lire à tour de rôle un passage. Alors on a lu un peu Marie-Hélène Lafon. Et après, on a lu beaucoup Emmanuel Pagano, enfin Salasque maintenant, parce que moi, je l'avais lu enfant, je l'avais lu il y a longtemps, mais j'avais envie de le redécouvrir, parce que Emmanuel vit à côté de chez ma grand-mère. Donc, c'est aussi quelqu'un que je connais et que je côtoie comme une voisine depuis que je suis enfant. Donc, je savais qu'elle faisait des livres. C'était aussi pour moi une figure importante, dans le sens où elle incarnait la possibilité de faire ça. Donc, j'avais lu, je pense, quelques-uns de ses livres quand j'étais au lycée. Et puis je les avais laissés dans ma bibliothèque et on les a redécouverts et lu aussi ces derniers comme ça à voix haute.
On va parler de votre texte à vous, Marion Fayolle, du même bois. Juste après cette chanson, c'est un chant traditionnel, c'est un chant qu'on dit un chant de mariage, interprété par le groupe La Mossa. C'est un chant où la jeune femme à marier est prévenue de quelques épisodes de vie qui l'attendent et c'est pas super super gai.
Sur la colline tout là-haut, la belle garde son troupeau, elle s'est endormie. La belle, ne vous endormez pas, car la terre est humide. Allez-vous-en à la maison, vous y verrez les amoureux, soyez sage et prudente. Et ne dites pas toujours oui comme une fille innocente. Quand vous voudrez vous marier, ne vous sentez pas trop pressé. Non, non, ne vous pressez guère. Le bonheur que vous trouverez ne durera pas guère. Vous ne quitterez plus votre maison. Chez votre mère,
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
La bâtisse est toute en longueur. Une habitation d'un côté, une de l'autre, et au milieu une étable. Le côté gauche pour les jeunes, ceux qui reprennent la ferme, le droit pour les vieux. On travaille, on s'épuise, et un jour on glisse vers l'autre bout. C'est plus pratique. Il y a une chambre au rez-de-chaussée, les escaliers sont moins raides, les pièces semblent disposées pour vieillir. Et puis quand l'un meurt, le mari souvent, les enfants sont à l'autre bout, ça rassure, ça évite la solitude. Ils regardent en passant s'il y a de la lumière, si les volets sont ouverts, si le linge est étendu. Ils s'arrêtent en coup de vent pour mettre des bas à varices, recompter les cachets pour l'attention et s'agacer un peu des oreilles qui ne les entendent plus. Et un jour, ils remarquent que c'est devenu dur de se lever la nuit pour les vélages, que le corps fait mal. Ils le savent, bientôt ce sera à leur tour d'aménager dans l'aile droite, d'occuper les pièces de la fin de vie. Mais tant qu'ils restent la mémé, ça les rassure. C'est qu'ils ont du temps, encore, devant eux. Une étable, encore, devant eux, avant l'autre bout. Ici, on fait toute sa vie sous la même toiture. On est dans le lit de gauche. On meurt dans celui de droite. Et entre-temps, on s'occupe des bêtes à l'étable. On commence par Les Murs. C'est l'incipit de votre premier roman, Marion Fayol, Du même bois, paru aux éditions Gallimard en cette rentrée de janvier 2024. Je le disais en début d'émission, on connaît aussi votre travail de dessin qui est surtout publié aux éditions Magnani et dans lequel la maison, la bâtisse a déjà une place assez importante. Est-ce qu'il y a un lien entre la bâtisse, la manière dont elle s'est petit à petit vidée de sa vie agricole et la façon dont vous la remplissez de mots? Est-ce qu'il y a une sorte de vase communicant?
J'ai l'impression, en tout cas, j'aimais bien l'idée que ce bâtiment-là, quand on le regarde de loin, soit presque une frise de vie, puisse contenir qu'on commence sa vie d'un côté et qu'on la finisse de l'autre, et que ça soit aussi presque une grande phrase, puisque c'est aussi le sens de la lecture, le sens dans lequel on se déplace comme ça le long de ce bâtiment-là. En tout cas, la maison revient toujours et pour moi, c'est important que l'architecture soit symbolique, en tout cas qu'elle soit autre chose que
le simple bâti.
Et là, dans l'idée de ce grand corps, de toute cette vie et de toute cette famille sous une même charpente, il y a un peu cette idée-là d'une sorte de grande, d'une unique colonne vertébrale qui tiendrait les animaux et les humains entre eux et la famille serrée dans un même élément.
Avec plusieurs générations, on l'a entendu dans cet incipit, et une façon de se déplacer dans la bâtisse en fonction qu'on est jeune, qu'on est au travail ou qu'on est au contraire un peu plus vieux et un peu plus proche de la mort et un peu moins au travail avec les bêtes, avec les champs, etc. Mais puisque vous parlez de colonne vertébrale, on dit souvent un corps de ferme, il y a vraiment l'idée comme ça d'un habitat qui est tout de suite très lié à de l'organique, Marion Fayol. Comment est-ce que vous avez traité ça par l'écriture? Comment est-ce que cette ferme, elle est aussi très matricielle dans votre texte?
Pour moi, en effet, la ferme, comme elle contient la famille, ses murs vont pouvoir pleurer, vont pouvoir faire du bruit, vont avoir des odeurs, non seulement parce qu'on entend les bêtes juste derrière les murs, qu'on a des cloisons comme ça qui séparent les humains des animaux qui sont très fines, et aussi parce qu'il va y avoir un personnage, le beau-frère, qui vit aussi dans les coulisses et qui fait aussi du bruit derrière les murs, au point que souvent ce sont les murs qui pleurent et pas lui. Les murs de la maison, c'est aussi une façon de rassembler les gens, il va y avoir tout un lien entre l'intérieur et l'extérieur de la ferme, et puis aussi l'extérieur, l'au-delà du paysage. Donc ça m'intéressait de voir aussi la maison comme presque un quelque chose qui tient les gens entre eux, avant de les laisser partir, un peu comme aussi les petits veaux qui naissent à l'étable, qui n'ont jamais connu en fait le dehors et qui un jour découvrent la prairie.
Est-ce que vous voulez dire un mot d'ailleurs, Marion Fayol, de cet extérieur? Moi, je ne l'ai pas, peut-être d'ailleurs à dessein, je ne l'ai pas situé géographiquement, cette ferme. Est-ce que pour vous, c'est important qu'elle le soit?
Alors, j'ai pas voulu la situer de manière très précise parce que pour moi, comme mes personnages qui n'ont pas de nom, etc., j'aime pas trop spécifier et trop ancrer les choses. Après, y a des éléments de paysage quand même qui sont forts et qui sont ceux du plateau ardéchois, de la montagne ardéchoise, qui sont les paysages dans lesquels j'ai pu grandir. Qui sont aussi, enfin c'est une nature sauvage, c'est un endroit quand même très très isolé, avec de la neige, avec des montagnes, avec un climat qui est rude et qui est dur.
Puisque vous parlez des veaux qui ne connaissent pas l'extérieur au départ, peut-être on peut évoquer la façon dont le texte est construit. Donc il y a plusieurs tableaux, ce sont des courts chapitres. À chaque fois, ça agit comme des formes de vision, on y reviendra. Mais la question du vélage, de la naissance des veaux et du parallèle qui peut très vite être fait entre ça et l'accouchement d'une femme humaine est très prégnant. C'est presque une sorte de machine qui lance aussi le texte, qui nous dira qu'on sera vraiment dans ces deux endroits du vivant. Est-ce que vous pouvez nous dire, je ne sais pas, pourquoi ce motif-là était si important ?
En fait, j'aimais bien l'idée d'avoir sans cesse des espèces de collages entre des vies humaines et ce qui se passe au niveau des animaux, parce que je pense que c'est comme ça que j'ai moi-même un peu été initiée, quelque part, à la mort, à la vie. Mmh. Et que quand on grandit, en fait, dans une ferme, c'est aussi ça, c'est qu'on apprend... On apprend qu'un jour on va mourir parce qu'on a vu mourir un petit veau. On apprend que on peut mourir même en étant un bébé. On apprend la sexualité en se rendant compte. Ah oui, ok, il y a un taureau, c'est comme ça que ça marche. On découvre en fait beaucoup de choses parce qu'on le voit. On voit les choses se faire de manière animale comme ça juste à côté de soi et que donc ça interroge. Et pour moi, c'était très important, comme je peux le faire en fait dans mes dessins. Où je suis sans cesse dans des jeux d'analogie. Ici, ça m'intéressait que l'animal et l'humain sans cesse se regardent, se chevauchent, qu'il y ait des jeux de miroir et que des choses que les animaux vivent puissent venir prolonger les pensées des personnages.
Voir, puisqu'on parlait de transmission, il y a évidemment toute une thématique de transmission générationnelle dans ce texte, mais il y a aussi la transmission d'un savoir, vous le dites, c'est-à-dire le savoir du vécu des corps des bêtes qui se déplacent comme ça dans le corps notamment d'un personnage qui s'appelle la gamine, qui est un personnage qu'on trouve à plein d'âges différents de son existence. Et à un moment donné, cette gamine va être plus une gamine et elle aura un enfant. Et mettant au monde un enfant, c'est comme si la vision de la vache qui lèche bien ou ne lèche pas bien son veau venait comme la visiter pour lui permettre à elle de jauger de sa bonne ou mauvaise maternité ou de son bon ou mauvais accueil du bébé. C'est rare de voir vous voyez ce que je veux dire, la transmission d'un savoir qui vient à ce point des bêtes et qui vient à ce point enseigner ou renseigner la vie des humains.
Oui, c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué enfant, de voir que certaines vaches, en fait, pouvaient ne pas... aimer leur veau, ne pas avoir d'instinct en fait, parce qu'on dit toujours aussi que l'instinct maternel c'est quelque chose d'animal, et ça m'avait frappé que même chez les animaux en fait il puisse y avoir une forme de rejet à un moment, et ça avait chez moi suscité beaucoup d'inquiétude aussi, je crois.
Mais d'ailleurs ça suscite l'inquiétude chez toute la famille dans le livre, puisque c'est ne la regarde pas, elle est mauvaise cette vache, elle va le tuer si elle ne le lèche pas. Enfin, ce sont des scènes où il y a vraiment du tragique très important, et on parle d'une vache et d'un veau.
Oui, oui, complètement. Complètement. Et ça m'intéressait de questionner cette vie avec les animaux aussi, parce que même si c'est plus. Moi aujourd'hui je vis plus avec des vaches. Je vis en couple avec quelqu'un qui enseigne l'équitation et qui dresse aussi des chevaux. Donc, je vis quand même à la campagne. Je vis avec des chevaux, avec des chèvres, avec un chien, un chat. Et pour moi, c'était très important au moment où j'ai eu un enfant, d'avoir des animaux. J'avais l'impression que je pouvais pas avoir un enfant sans avoir des animaux autour, que les animaux, ça contribuait à l'enfance et ça contribuait à l'instruction et à la, à la compréhension du monde et de la vie. Donc, ce que j'avais pas du tout projeté avant, parce que j'ai vivé à un moment donné en ville et tout ça, que j'étais partie de l'Ardèche et que j'avais pas, je m'étais pas du tout dit que le jour où j'allais avoir envie d'un enfant, j'aurais aussi envie d'un chien. j'aurais aussi besoin, en fait, de voir des animaux à travers mes fenêtres, d'être embarrassée de pas pouvoir partir parce qu'il faut aller les nourrir matin et soir. J'ai eu besoin, en fait, de retrouver ça comme si ça faisait partie, comme si un enfant, ça devait s'élever à la campagne
ou comme
cas,
si,
avec des bêtes.
Comme si aussi ce personnage de jeune femme, votre double fictionnel qui se rend bien compte qu'elle ne deviendra pas paysanne, puisqu'il est aussi question d'une transmission qui va pas jusqu'au bout, en tout cas pas jusqu'au bout tel que ça a été le cas, c'est-à-dire des générations qui reprennent des fermes, ben ça se décale un peu et vous avez quand même ouvert des fenêtres dans une autre maison où il y a des animaux tout autour, Marion Falliotte. C'est intéressant comme l'histoire, elle est à la fin du livre, en effet, elle prend un autre chemin mais ne s'éloigne pas complètement de ce monde des animaux. J'aimerais qu'on écoute la voix d'une auditrice, membre du Book Club de France Culture, elle s'appelle Aurélie, elle a lu votre livre, mais elle connaissait vos dessins.
Marion Fayolle, on vous connaît comme illustratrice. Vous racontiez des histoires avec des images. Dans ce premier roman, vous le faites seulement avec des mots. Est-ce que ce livre vient d'un même besoin et pourquoi a-t-il pris cette forme ?
Merci beaucoup à vous, Aurélie, pour cette question. Je vous l'adresse tout de suite, Marion Fayolle.
Je pense que ça vient d'un même besoin. Je pense que l'impulsion de dessiner ou d'écrire est la même. Et d'ailleurs, je pense que le dessin est une littérature. Donc pour moi, il n'y a pas énormément de différence. Si ce n'est que j'ai l'impression qu'avec les mots, je peux atteindre certaines zones que j'arrive pas à atteindre avec le dessin et vice-versa.
Et inversement, j'imagine, ouais.
Voilà. Pour du même bois, même si les dessins sont pas là, ils sont là quand même dans le texte, en fantôme. C'est plus une écriture quand même par l'image que par le scénario. Donc pour moi, c'est une façon de dessiner, mais avec des mots.
Est-ce qu'on peut préciser ça? Parce que je pense que c'est très important pour parler vraiment de votre langue, Marion Fayolle, oui. Et de la spécificité de votre écriture. Quand vous dites que c'est une écriture par l'image et non par le scénario, il faut s'imaginer que parfois, deux lignes ou trois lignes, ou même juste une phrase, font image ou s'appuient sur une image, mais j'ai envie de dire plus fort que ce qu'on peut appeler une comparaison ou une métaphore. Maintenant, débrouillez-vous pour préciser ça.
Eh bien, par exemple, sur le chapitre du début, avec la longère qui serait une frise de vie, pour moi, c'est une image que j'aurais peut-être pu dessiner. Ou alors, quand la mère mange en face de sa mère, en fait, elle mange en face de son reflet ou elle mange en face d'elle plus tard. Ça, c'est par exemple une image que j'avais fait dans un livre qui s'appelle Les Petits, qui pourrait presque être la même image avec une petite fille qui se regarde dans le visage de sa maman. Et le visage de sa mère est vraiment un miroir qu'elle lui tend.
Il y a aussi l'idée, le procédé vraiment très graphique du dégradé du temps ou du dégradé des âges quand vous mettez trois générations de femmes côte à côte. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez l'image Marion Fayolle et que vous écrivez, qu'il n'y a pas de séparation de temps et qu'en fait, vous écrivez comme vous dessinez, comme vous écrivez comme vous dessinez, comme vous vivez ou comme vous pensez?
Je pense que c'est ça. En fait, c'est que j'ai l'impression que mon cerveau génère des images, qu'après, soit ça devient des images, soit ça devient une pensée en images. Et que là, dans du même bois, je n'avançais pas en me disant je vais raconter telle histoire, mais je vais convoquer telles images. Je vais aussi, ça m'intéressait que tous ces corps qui vivent ensemble, dans presque tous les chapitres, il y a un moment où la limite entre les corps s'efface. Ça peut être la mère et la mémé, ça peut être le papy qui est mort et du coup le petit tout qui aimerait rencontrer son papy, mais comme il est pas là, il va demander à sa maman de faire semblant d'être le papy. Donc c'est aussi plein de moments comme ça où les personnages viennent se muter les uns
et se fondre,
les autres,
on est presque du côté de la métamorphose d'Ovide que vous avez
écrit. Et donc tout ce jeu comme ça qui est très visuel à la base, presque chaque entrée dans le texte où chaque image que je convoquais, c'était cette idée-là de porosité et de à quel moment cet animal vient regarder ce personnage, à quel moment ce personnage vient regarder tel autre personnage et comment ça se reflète, ça se déforme et ça revient à créer du sens.
On a parlé beaucoup des animaux dans le texte, qui sont à la fois dans la maison, en dehors de la maison, dans le paysage, mais beaucoup
dans la tête.
Dans la tête et dans le corps. Vous avez évoqué brièvement tout à l'heure ce fameux beau-frère qui a une sorte de relation plus qu'amicale avec une poule faisane, et c'est comme ça un satellite assez important, on y viendra. Mais il y a aussi la bête à l'intérieur du corps de la gamine, qui est la sexualité naissante, qui est le désir naissant, qui est la découverte de ses émois, et ça a une place très importante dans Du même bois. On va écouter un extrait de votre texte.
Les jeunes se donnent rendez-vous dans les bois, se faufilent entre les arbres, cherchent un coin pour leur désir. Ici c'est bien, on nous voit pas. Tu es sûr? Ça fait comme un lit, et ils s'embrassent avec la langue, et ils la tournent dans tous les sens, et ils se lèchent dans le cou, et ils se mordent les oreilles. Il faudra cacher les suçons. Les mains s'introduisent sous les tissus, partent à la rencontre des seins encore timides, si menus, tout pointus, se glissent sur des tailles douces, défont des nattes rousses, s'attardent sur des ventres brûlants. S'ils n'avaient pas de ceinture, ils iraient plus loin, c'est sûr. Mais là, ils font le tour sans oser s'approcher plus. Ils y glissent juste quelques doigts. Ils retirent le haut, se serrent, se respirent, se frottent, gonflent, mouillent. La forêt les regarde, les cache, les tamise, les éclaire en sélectionnant des endroits, la nuque, la cambrure, là où c'est le plus beau. Ils ont des copains qui l'ont déjà fait, comme ça, sans s'aimer, juste pour que ce soit fait. Entre leurs jambes, ça a envie de s'offrir, ça pulse, ça va chercher l'autre. Ça ne leur appartient plus, ça devient sauvage. Tu n'as pas entendu un bruit? Non? Ne bouge pas. Il y a l'autre fou avec sa faisane, juste là, je reconnais ses chaussures. Vite, les mains attrapent les habits, les enfilent à la hâte. Tant pis si c'est à l'envers. Ça tire un coup, le malade. Ils se cassent, courent jusqu'à la ferme, abandonnent leur sexe gonflé dans les sous-bois, rentrent avec seulement leur malaise et leurs cheveux parsemés d'épines. Le soleil éclaire fort l'échec de leur première fois. Il n'y a plus rien qui ose se regarder, ni leur corps, ni leurs yeux. L'autre fou, avec son fusil, il a tué un truc. Ce ne sera plus comme avant.
Un extrait de votre roman Du même bois au programme du Book Club de France Culture cet après-midi que vient de lire Jeanne Aléos. Je le disais, une des bêtes, qui est une bête métaphorique, c'est la naissance du désir dans le corps de la gamine et dans le corps de tous les gamins qui sont autour de cette ferme, Marion Fayolle. Est-ce que vous l'avez vu venir, cette thématique du désir, en commençant l'écriture autour de cette ferme?
Pas forcément. Elle s'est un peu incrustée dans l'histoire. Après, j'avais quand même cette... Enfin, assez vite, il y avait l'idée d'avoir le personnage de la gamine qui serait au carrefour entre... Enfin, qui hériterait des bêtes, dans des bêtes de la ferme, et qui hériterait aussi des bêtes dans la tête. Et j'aimais bien cette idée de vivre avec les bêtes, qu'elles soient en soi ou presque en soi, mais à côté de soi. Et j'aimais bien les idées contraires avec les paysans qui prennent soin des bêtes, qui... Le grand-père qui ne cesse de dire que s'il n'y avait pas de bêtes, ça serait plus vivable. Comme si les bêtes, c'était la vie, et que c'était ce qui était essentiel et même des fois plus important que sa propre vie, sa propre santé. Et en même temps, les bêtes qui sont en soi, qu'on aimerait taire, avec lesquelles on n'arrive pas trop à se dépatouiller, à trouver un équilibre, et que des fois on aimerait justement, dont on aimerait des fois se débarrasser. Et j'aimais bien qu'il y ait des sortes de quiproquos, qu'il y ait cette gamine, qui ait des bêtes, qui soit à la fois la naissance du désir, qui soit aussi une forme de mélancolie ou de
colère,
colère, d'émotivité, enfin quelque chose comme ça, que tous les personnages en fait dans la maison arrivent à tenir leurs émotions, sauf elle, Et elle devient presque l'émotion, enfin, la personnification de l'émotion. Et donc, du coup, elle aimerait réussir à dompter ces bêtes-là, voire même à peut-être s'en délester, peut-être ne pas les transmettre à son propre enfant. Et d'un autre côté, elle entend sans cesse le discours du pépé qui répète que sans les bêtes, cher, ouais. la vie n'aurait de sens. Donc ça m'intéressait aussi de voir comment ces ambivalences et ces deux discours venaient se chevaucher dans ce personnage-là.
Il y a peut-être un autre personnage qui a des bêtes indomptables en lui, c'est celui du beau-frère. Oui. Peut-être on peut dire un petit mot, Marion Fayol, de cet homme-là. Je le disais tout à l'heure, satellitaire, mais il n'est pas tellement satellitaire, il est assez omniprésent. Il est satellitaire parce qu'il est à part. Mmh. Est-ce qu'on peut en faire le portrait et dire quelle place il tient dans Du même bois ?
Alors, dans Du même bois, justement, je me suis intéressée principalement aux marginaux. À ceux qui ne prennent pas la place ou n'arrivent pas à prendre la place telle qu'on est censé le faire dans la logique de ce bâtiment et de cette famille-là. Et en ça, le personnage du beau-frère, il est très important parce que c'est quelqu'un qui ne travaille pas, qui a sans doute une forme de handicap qu'on ne nomme pas, qui serait peut-être aujourd'hui diagnostiqué d'autisme, ou enfin quelque chose comme ça en tout cas. Et donc, il vit là, on s'occupe de lui, parce qu'en fait, dans cette famille et dans cette maison, il y a aussi une très grande solidarité, et que en fait, quelqu'un qui est un peu en marge ou qui est un peu déficitaire, on va pas le mettre dehors, donc on s'en occupe, même si parfois c'est compliqué. Et donc, il vit avec une poule. C'est aussi, je pense, le personnage le plus fantastique. Parce que même s'il y a beaucoup de choses autobiographiques dans ce livre, mon grand-père vivait avec son frère, et donc ça c'est quand même vrai. Mais j'en ai très peu de souvenirs, si ce n'est que je sais qu'il chassait et que dans mon imaginaire il ramenait souvent des poules faisanes mortes. Voilà, j'ai pas pour ce livre voulu enquêter, poser des questions. J'avais envie aussi que la mémoire ait déformé les choses, et j'aimais bien cette idée que moi, petite fille, j'avais presque l'impression qu'il vivait avec des poules. Donc c'est comme ça que j'ai eu envie de le déployer. Et assez vite, je me suis posé la question. Enfin, je me suis dit, puisqu'il vit comme ça dans les coulisses, qu'on l'entend taper derrière les murs, que c'est aussi un personnage qui parle pas, ou alors qui parle comme ça par les images. Est-ce que ce serait pas presque l'inconscient, le double du pépé ? Et c'est pour ça que j'ai décidé de les faire mourir au même moment. C'était pas quelque chose que j'avais prédéfini, mais en écrivant, je me suis moi-même posé la question, comme j'étais sans cesse dans un jeu de correspondance où les personnages débordent les uns sur les autres. Je me suis dit, est-ce que ce... Et puis j'aimais bien aussi l'appeler beau-frère, parce que justement, il a rien de beau. Mmh. Mais j'aimais bien que ce soit lui le beau-frère, alors que c'est celui qu'on cache, et que le pépé serait celui... la face visible, presque. Et voilà, donc j'ai pas complètement résolu l'énigme de ce personnage-là.
Non, mais il est là, mais et finalement, il tient même cette place d'énigme, en fait, Marion Fayol. Quand vous dites c'est l'inconscient du pépé, c'est presque aussi l'inconscient du livre. C'est-à-dire qu'on imagine que c'est même le grenier imaginaire de la bâtisse.
C'est aussi presque la bête du pépé. Enfin, voilà, il y a tout ça. Et c'était pour moi aussi presque à un moment donné. Donc, il y a ce papy aussi qui est plus là. Et il y a cette question de l'alcool, et qui rend le papy un peu double, avec un papy sobre et un papy qui aurait bu. Et donc ces deux personnages, je me dis c'est peut-être aussi ça que ça pourrait raconter. En tout cas, j'aime bien
deux états de la même personne.
J'aime bien que ça soit assez ouvert, et que ça soit venu aussi me surprendre dans l'écriture, que je sois partie d'un personnage dans la famille dont on ne parle pas, qui n'a jamais eu d'enfant, qui est peut-être même pas trop sur les photos de famille. J'avais envie de lui donner de l'espace, de le sortir comme ça de ses coulisses, et puis de le questionner pour en faire un personnage très important dans le livre, et aussi le personnage qui permet plusieurs lectures.
Puisqu'on parle de transmission, on va entendre la voix d'un autre auditeur. Il s'appelle Thomas et c'est un des sujets qui l'a le plus intéressé.
Bonjour le Book Club, bonjour Marion Fayolle. Vous avez écrit de magnifiques scènes de transmission dans lesquelles j'ai pu aussi revoir une partie de ma famille avec mes grands-parents. À la fin de votre roman, vous écrivez que la gamine a renversé son histoire. Elle a laissé s'échapper toutes les bêtes. Je me suis demandé si, une fois que vous aviez terminé votre roman, est-ce que vos lecteurs, en ayant récupéré les bêtes et les souvenirs, sont eux aussi des gardiens des souvenirs, et est-ce qu'ils sont eux aussi faits du même bois ?
Oh, merci beaucoup Thomas pour cette super belle question. Marion Fayolle, est-ce que maintenant on est fait du même bois et est-ce qu'on tient le fil des souvenirs après vous avoir lu ?
J'espère. En tout cas, faire ce livre, je pense que c'était une façon de pas vouloir voir mourir cette histoire. C'était une façon d'en hériter et c'était aussi une métamorphose. C'était aussi une façon de donner cette histoire à d'autres pour qu'ils puissent se glisser dedans, la transformer.
S'y reconnaître éventuellement,
s'y reconnaître.
Parce que Thomas dit, voilà, j'ai vu mes grands-parents, et j'imagine qu'en faisant les nombreuses rencontres en librairie que vous faites, vous devez avoir souvent, vous aussi, un effet miroir de personnes qui viennent vous dire « Ah, chez moi, c'était comme ça, la ferme de mes grands-parents, c'était comme ci. »
Oui, et oui, et c'est très touchant parce que on croit tous qu'on a eu une enfance unique et qu'on a une vie qui est pas celle des autres. Et puis finalement, c'est très beau de se rendre compte que ça peut faire des ricochets. Et par rapport à ce que je disais tout au début aussi sur mon entrée dans la lecture par des livres qui seraient pas trop autoritaires, en tout cas par cette idée que quand on lit un livre, on doit être actif, on doit trouver sa place. Moi, c'est ce que je cherche en ne mettant pas de prénom, en laissant sans cesse dans le livre des ellipses, des creux, des endroits pour que le lecteur puisse en fait venir s'approprier, puisse venir mettre les détails que moi je mets pas. Ça m'intéresse beaucoup et quand un lecteur a réussi à sentir mon histoire comme étant la sienne, pour moi, il a joué le jeu de venir se glisser dans tous les interstices et dans tous les espaces que je lui ai laissés.
Après, vous dites que c'était une façon de ne pas vouloir voir mourir cette histoire. Est-ce que c'est parce qu'elle meurt effectivement, Marion Fayolle ? C'est-à-dire qu'il se trouve que là, nous, on se parle en février 2024, alors que la question du monde agricole, du monde paysan, du rapport à la ferme et à ces métiers-là, quelles qu'en soient les échelles, est dans le discours médiatique, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Et on a beaucoup dit que c'était un monde qui se mourait depuis longtemps. Est-ce que vous avez l'impression que écrire et raconter cette histoire-là, c'est en effet empêcher sa pure et simple disparition?
Alors là, je pense que c'était plus au niveau moi-même de ma propre famille parce que mon oncle ayant pris sa retraite, en effet, il n'y a pas eu de repreneur. Donc cette histoire-là, ce lieu-là s'est vidé de ses bêtes et c'est quelque chose qui, moi, à titre personnel, me remuait beaucoup. Après, je sais pas, je peux pas parler au sens large, mais je sais que sur le plateau des choix, en tout cas, moi, j'ai beaucoup d'amis d'enfance qui étaient partis à un moment donné, où j'avais l'impression qu'il y avait plus que des personnes âgées, que c'était très triste et très dur aussi d'y retourner. Alors qu'aujourd'hui, bah là, j'y vais samedi pour présenter du même bois. J'ai beaucoup d'amis qui ont repris les fermes de leurs parents et qui opère une sorte de petite métamorphose.
Mais c'est pas une autre histoire, c'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est que finalement, c'est plus de l'ordre de la métamorphose que de la pure et simple continuation, Marion Fayolle.
Oui, oui, oui. Et là, je fais un livre, donc c'est quand même une métamorphose qui est significative, mais de la même façon, j'ai un ami dont le papa faisait que du lait et qui aujourd'hui fait du fromage, donc à un moment, il vient reprendre la ferme, mais il se décale un peu. Il se décale un peu, il se réapproprie les choses, il réinvente aussi son chemin. Et il y en a beaucoup, en fait, et j'ai beaucoup d'amis qui ont ce courage-là et j'aime aller les retrouver parce que ça me met du baume au cœur en fait.
On a assez peu parlé du personnage du petit tout. C'est le personnage de l'enfant, vous le mentionnez tout à l'heure. C'est l'enfant de la gamine, double, voilà, qu'on imagine fictionnelle. Je voudrais qu'on écoute la voix de l'auteur et poète Christian Bobin, disparu, mais qui évoque le lien entre la littérature et l'enfant.
Peut-être que tout ce qu'on appelle l'art, écrire, peindre, faire de l'architecture, peut-être que tout ce qu'on appelle l'art, c'est juste la chansonnette que pousse l'enfant à qui on a demandé d'aller dans la cour pleine de nuit. C'est cette chanson qu'il fredonne pour lui-même, pour se donner du courage. Et l'écriture, c'est peut-être aussi, pour reprendre cette autre image qui conforte la première, c'est l'histoire de la petite marchande d'allumettes. C'est-à-dire, chaque livre est une allumette craquée dans la nuit.
La voix de Christian Bobin, qui parle de l'art, de l'écriture, mais donc pour reprendre toutes vos pratiques aussi, du dessin, Marion Fayolle, comme étant la petite chanson que se chante le gamin à qui on a dit de traverser la cour dans la nuit. Magnifique image. Oui. Peut-être pour vous inviter à parler de la place de l'enfance. On a parlé des veaux, mais peut-être du corps de l'enfant dans du même bois.
Pour moi, l'enfance, c'est... Enfin, en tout cas, quand j'écris, c'est une façon de renouer avec l'enfance. Et il y a quelque chose comme ça, de vouloir retrouver une forme de, je sais pas comment, de liberté. Enfin, quelque chose comme ça. J'ai pas, quand je dessine ou quand j'écris, c'est pas douloureux. C'est pas quelque chose qui est compliqué. Au contraire, j'ai presque le sentiment d'être en train de jouer, à m'inventer mes cabanes, mes histoires. Donc en ça, l'enfance est très importante. Et le personnage du petit tout, ou même les personnages dans mes dessins, les bébés, les enfants sont souvent très grands, parce que j'ai le sentiment qu'en vieillissant, on diminue. Plutôt qu'on grandit. Et souvent, j'ai l'impression que, par exemple, mon fils est beaucoup plus grand que moi. Parce que, justement, comme il ignore encore tout, il est obligé de... Il est sans cesse dans une forme de créativité et de poésie que je lui envie beaucoup. Et c'est peut-être aussi pour ça que le personnage de la gamine... reste le personnage de la gamine même en vieillissant, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, de vouloir sans cesse renouer avec l'enfance, de pas vouloir aussi voir grandir trop vite les enfants, dans le sens de les voir perdre en fait cette liberté, cette naïveté et aussi cette créativité.
Mais c'est ce qu'il faut entendre dans le petit tout, c'est qu'il y a quelque chose pour vous dans l'enfance qui est la très grande, presque la totale potentialité. Un enfant, c'est tout, et puis plus ça va, et plus on enlève des petites options.
Dans le petit tout, dans l'extrait qui parle des petits tout, c'est plus l'idée que l'enfant serait une sorte de collage de tous les gens de sa généalogie, et que donc du coup il devrait réussir à composer avec des histoires, avec des gènes, avec des choses qui viennent d'ailleurs et qui seraient le bouquet qui rassemblerait plein d'autres personnes.
Ce qui est plus ou moins encombrant pour lui d'ailleurs.
Ce qui peut être plus ou moins encombrant. Voilà, donc je pense que c'est pas vraiment la même idée, mais en tout cas l'enfance. Dans du même bois, c'est plutôt le personnage du dresseur qui s'inquiète de ça, parce que lui, quand il dresse des poulains, quelque part, il leur enlève une forme de vitalité, de flamme, de fougue, et il s'inquiète que éduquer son enfant, lui apprendre des choses, ça ait le même effet. Et je pense que c'est une question quand même qui me travaille beaucoup, et j'ai souvent le sentiment de rejoindre mon enfance au moment où j'écris, et même aujourd'hui d'avoir de dialoguer avec mon enfant. J'ai l'impression que ça appelle l'écriture.
Restez avec Marion Fayolle, on continue le Book Club et peut-être qu'on reparlera un tout petit peu du même bois.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
À cette heure-ci, dans le Book Club, le mardi, nous avons rendez-vous avec Lou Quevauvillier. Bonjour Lou.
Bonjour Marie.
Ravie de vous retrouver à ce micro. Lou, on vous retrouve toujours au même carrefour que j'aime, c'est-à-dire celui des enjeux numériques et des enjeux littéraires. Aujourd'hui, vous nous parlez de la numérisation du manuscrit du premier roman de Virginia Woolf. C'était un manuscrit qui était à destination de son éditeur américain et qui avait été perdu pendant 21 ans.
Et oui, même les choses les plus rares et les plus précieuses arrivent à se perdre parfois. Ça a été le cas temporairement avec ce manuscrit de The Voyage Out, traduit en français par La Traversée des Apparences. C'est un manuscrit qui avait été acquis dans les années 70 par la bibliothèque universitaire de Sydney, la bibliothèque Fisher. Mais pendant des années après cette acquisition, le manuscrit était resté introuvable à cause d'une erreur de classement. Heureusement, en 2021, le livre a été retrouvé et ça a été l'occasion de se lancer dans la numérisation de l'ouvrage pour que n'importe qui puisse le consulter. L'opération a pris plusieurs années, mais voilà, depuis quelques semaines, le manuscrit est disponible gratuitement sur le site de la bibliothèque. Alors, il y a plusieurs manières d'étudier un manuscrit, mais face à ce texte, c'est l'approche génétique qui a été privilégiée par les spécialistes, c'est-à-dire qu'ils ont observé les différentes versions du texte et la manière dont le manuscrit annoté de la main de Virginia Woolf et de son éditeur nous renseigne sur la fabrication de l'œuvre.
Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de l'édition de ce texte ?
Alors, quand Virginia Woolf écrit ce premier roman, La Traversée des Apparences, on est en 1914, juste avant le début de la Première Guerre mondiale, et il est publié l'année suivante à Londres par son demi-frère, Gérald Duckworth, qui était aussi son éditeur. En deux mots, le livre raconte la vie de Rachel Vinrace qui embarque sur un bateau pour l'Amérique du Sud et c'est une espèce de voyage initiatique de cette jeune femme avec pour toile de fond une satire sociale de l'époque édouardienne qui correspond au début des années 1900 au Royaume-Uni. Et on peut dire que c'est l'ouvrage qui a lancé la carrière d'écrivaine de Virginia Woolf. Très vite, après le succès de son livre dans son pays d'origine, l'autrice est contactée par George Doran, qui est un éditeur américain et qui souhaite publier son livre. Virginia Woolf accepte à condition qui soit modifiée. Il va donc procéder à une série de révisions de son texte. Ça va durer 3 ans. C'est long parce que ça correspond à une période difficile de la vie de l'autrice. Elle souffre d'un grave épisode dépressif et c'est d'ailleurs à ce moment charnière de son existence qu'elle commence à écrire son journal parallèlement à ses autres textes. Alors ce qui est étonnant, c'est que les corrections de La Traversée des Apparences se sont faites à partir du livre paru au Royaume-Uni, je veux dire à partir du livre imprimé. Elle l'a annoté à la main et elle a aussi collé des pages dactylographiées dessus pour remplacer certains passages. C'est cet ouvrage-là qui est conservé à la bibliothèque de Sydney et auquel nous avons accès.
C'est celui-là qui a été numérisé.
Oui.
Et alors, de quelle nature sont ces annotations ?
Elles sont de nature très différente. Il y a celle de la main de Virginia Woolf, on les reconnaît car elles sont écrites au crayon bleu. Et puis il y a celle de l'éditeur, inscrite au crayon brun. On remarque des ajustements grammaticaux plus ou moins importants et des passages entiers qui ont été barrés. Mais une fois que l'on compare ce manuscrit avec la version américaine finalement éditée, on remarque que seules les pages dactylographiées ont été prises en compte.
Alors qu'est-ce que ça nous apprend justement, ces premières études ? Qu'est-ce que ça nous a permis de comprendre de l'œuvre de Virginia Woolf ?
Ces études montrent que Woolf a voulu rendre le narrateur moins omniscient que dans la version initiale, sans doute pour laisser plus de place aux lecteurs et aux lectrices dans l'interprétation des faits et gestes de ses personnages. Elle a aussi retiré beaucoup d'éléments autobiographiques, mais ce qui est le plus intéressant à observer, ce sont les corrections qui mettent en lumière les prémices de l'utilisation de ce que les théoriciens de la littérature ont appelé plus tard le flux de conscience, qui est une forme spécifique du monologue intérieur, où on essaie de recréer le mouvement de la pensée à l'écrit. C'est l'une des signatures qui a rendu célèbre Virginia Woolf. Ce premier roman se situe donc à mi-chemin entre des conventions du roman réaliste hérité au XIXe siècle et une fiction plus moderne qui a apparu au XXe siècle et dont Virginia Woolf fut l'une des pionnières. Le flux de conscience, on le retrouvera dans bien d'autres de ses livres et particulièrement dans Les Vagues, Mrs. Dalloway ou La Promenade au phare. Enfin, il existe un deuxième exemplaire de ce manuscrit qui prépare la publication aux États-Unis. On imagine qu'il appartenait à l'éditeur. Il se trouve actuellement à Londres, dans les mains d'un riche collectionneur, curieux de prêter son ouvrage pour que les deux manuscrits puissent être comparés, ce qui nous donnerait sans doute accès à d'autres observations encore. C'est une étude à venir et à suivre. La Traversée des Apparences a été publiée bien plus tard en France, en 1948, aux éditions du Cahier Gris, traduit par Ludmila Savitsky. Puis l'œuvre a été retraduite en 2012 par Jacques Aubert pour son entrée dans la Pléiade.
Merci beaucoup Lou. Sur quel site on peut aller visiter ça du coup ?
Sur le site de la bibliothèque de Sydney,
On mettra sur lecture numérique à visiter franceculture.fr. Merci beaucoup Lou Quevauvillier.
Merci.
C'est c'est l'heure du jeu des pages musicales. Donc, dans le Book Club, voilà, on invite nos auditeurs et nos auditrices à jouer avec nous, Marion Fayol. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'ils ou elles rencontrent l'évocation d'un air musical dans un texte, ils font une petite photo, ils nous l'envoient ou bien par l'Instagram du Book Club de France Culture, ou bien par le mail leboookclub@radiofrance.com. Et parfois, je vais lire la participation de notre auditrice d'aujourd'hui, mais parfois on en cherche dans les livres, et là, on n'a pas trouvé une seule évocation de musique dans Du Même Bois.
Non.
Vous en pensez quoi? Ça dit quelque chose ou pas du tout?
Je sais pas. J'ai pas réfléchi à ça. Pourtant, pour moi, la musicalité des mots, elle est importante.
Elle l'est, par ailleurs.
Mais pas la musique.
Pas non. De musique dans Du Même Bois, non, mais de la musique dans vos mots.
Ouais.
C'est l'auditrice Françoise, qui joue avec nous aujourd'hui au grand jeu des pages musicales et elle nous a soumis un extrait du Fils de l'homme paru en 2021 aux éditions Gallimard. C'est un extrait d'un roman de Jean-Baptiste Delamo. Il quitte la maison, laissant la mère et le fils assis l'un face à l'autre. Elle tend la main droite par-dessus la table pour passer son pouce à la commissure des lèvres de l'enfant, barbouillée de sauce tomate. « Regarde-toi, dit-elle, tu t'en es mis partout. » Le fils s'essuie d'un revers de main lorsque le père ressurgit. Il tient un petit poste de radio à pile, constellé de plâtre ou de peinture, et en déplie l'antenne télescopique. L'appareil chuinte lorsqu'il l'allume et parcourt en vain la FM. Ils ne perçoivent d'abord que de lointaines fréquences, puis ils basculent en AM et parvient à capter une station musicale diffusant « A Whiter Shade of Pale » de Procol Harum. Le signal s'éclaircit lorsqu'il lève le poste au plafond et le père s'empresse d'éteindre la lumière, laissant la pièce uniquement éclairée par le rougeoiement des flammes dans le foyer de la cheminée. « Grimpe !» dit-il au fils, en tapant sur la nappe du plat de la main. « Où ça ?» demande l'enfant. « Là, sur la table, dépêche-toi !» Le garçon lance un regard à la mère qui secoue la tête pour signifier son impuissance et acceptant la main que le père lui offre, le fils monte sur la table, les pieds plantés au milieu des assiettes. Le père pousse au maximum le volume du poste de radio et le tend à l'enfant. Tiens-le bien haut et ne bouge surtout pas. Feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. Let her face at first just go sleep. Turn the wider shade of pale. J'espère que tout le monde danse des slow chez soi. Franchement, ça donne vraiment très envie de faire une grande boum. Merci beaucoup Marion Fayol d'avoir été avec nous pour évoquer votre livre « Du même bois » paru aux éditions Gallimard. Si on veut venir vous écouter, peut-être même faire signer son livre, on peut aller par exemple à la Fête du Livre à Bron le 10 mars. On peut aller vous écouter à la Maison de la Poésie à Paris le 27 mars, pourquoi pas à Romans-sur-Isère le 17 mai, à Saint-Mandé le 28 mai, etc. Vous serez à Strasbourg le 30 juin quand il fera beau. Au son aujourd'hui, c'était Ludovic Auger, à la réalisation Lys Combe. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Auriane Delacroix, Maëlys Salet, Mathilde Wagman, Noé Margas, Didier Pinault, Alexandra Laibegovic, Jeanne Aléos et Marianne Chassor. Vous pouvez réécouter le Book Club sur franceculture.fr et pourquoi pas vous abonner au podcast via l'application Radio France. Très bel après-midi sur France Culture.